Pauline Pucciano. Le Septentrion. C'était pour la première fois sans aucun but politique que Lioa empruntait le long couloir de marbre en direction de la salle centrale. Elle s'imposait cet exercice social dont elle ne ressentait pas le besoin, mais au contraire la vanité et le leurre, sans savoir exactement ce qu'il était susceptible de lui apporter. Quelques informations psychologiques, sans doute, peut-être l'occasion de renforcer son image. Elle méprisait les autres, mais elle était curieuse de savoir de quelle façon ils trompaient leur nostalgie et leur désir de liberté, de quoi ils parlaient, à quoi ils s'intéressaient. Ils restaient pour elle mystérieux malgré leur transparence, et leurs attitudes, dans leur complexe irrationalité, la fascinaient. Nebelouir et Rem, qui étaient seuls, interrompirent leur conversation au moment de son arrivée. Elle contourna derrière les colonnes une partie de la table afin de les rejoindre. Rem se leva et lui avança une chaise, avec un sourire qui n'était rien de plus et rien de moins que le signe strictement impersonnel de sa non-agressivité. « Excusez-moi de faire intrusion, » dit-elle en s'asseyant. « Je vous en prie, » dit Nebelouir, « nous ne serions pas ici si notre conversation était privée. De plus, » ajouta-t-il en la dévisageant, « cela fait longtemps que je désire vous connaître. » Lioa essaya de déchiffrer son regard, mais se heurta à une maîtrise de soi presque identique à la sienne. « Eh bien, voilà qui est fait. »« Peut-être serez-vous à même de nous départager, » intervint Rem. « Nous ne sommes pas d'accord sur la question de l'origine de l'Olympe. » Sa curiosité fut piquée. C'était un sujet qui l'avait toujours passionnée elle-même, et elle sut à cet instant, bien que ce fût contraire à ses prévisions, qu'elle allait pénétrer dans leur conversation de plein pied. « Et quelle thèse soutenez-vous » demanda-t-elle. « Je crois me souvenir qu'il y en a plus de deux. » « Je disais, » poursuivit Rem de la manière parfaitement méthodique qui était toujours la sienne, « que les mentalités à l'époque n'étaient que fort peu sensibles au danger du culte de la personnalité. »« Cela dépend où, » dit Nebelouir. « Le Méridien et l'Austrie avaient déjà sombré dans ce travers depuis plusieurs décennies. »« Certes, » reprit Rem, « mais cela ne suffit pas. » Vous rendez-vous compte que presque aucune voix ne s'est élevée contre l'idée de l'Olympe ? C'est quasiment la seule action historique qui n'ait rencontré aucun obstacle majeur, et ce, à un niveau international. Lioa ne réfléchit pas vraiment avant de répondre, et ressentit pour la première fois de sa vie l'impression de danger un peu grisante qu'est l'impression de plonger sans la moindre garantie dans le jugement de l'autre. « Vous oubliez, dit-elle, que ces pays étaient déjà tous des dictatures à l'époque dont vous parlez, et que cela a grandement contribué à cette unanimité. »« Cela n'explique pas en soi la genèse d'une pareille structure. L'Olympe était une idée sans précédent, folle, totalement imprévisible. »« L'idée me paraît logique, au contraire, » dit Nebelouir. « Il se trouve seulement que la conjoncture historique ne s'était pas encore présentée. Quel moyen plus radical pour éviter la corruption et les querelles de pouvoir ?» Pour s'assurer que le dictateur ne commettra aucun débordement, pour stabiliser le régime. Je trouve, moi, presque étonnant que les hommes n'y aient pas pensé plus tôt. Vous interprétez le passé avec votre regard actuel, dit Lioa. Au temps de l'humanisme, cette structure était strictement inconcevable, non seulement parce qu'elle suppose une dictature universelle, mais surtout parce que la notion même de dictature n'était pas la même. À l'époque, on pensait qu'un dictateur cherchait nécessairement son profit personnel. C'est la raison pour laquelle les démocrates n'ont pas su prévoir leur chute, d'ailleurs. Ils n'envisageaient pas des dictateurs assez fous pour sacrifier leur liberté. Ainsi donc, dit Rem, vous pensez comme Nebelouir que l'Olympe est naturellement liée aux formes actuelles de pensée et de gouvernement. Oui, répondit-elle franchement. C'est une structure qui est cohérente avec les autres organes de pouvoir. Un principe de stabilité politique qui contrôle et libère l'économie en même temps, ajouta Nebelouir. Rem parut réfléchir un long moment. Lioa éprouvait une légère honte à s'être ainsi laissée aller à parler ouvertement sur un ton qui n'était pas celui de la parfaite neutralité. Elle avait donné un avis, ce qui se révélerait peut-être préjudiciable à un moment ou à un autre. Vous avez peut-être raison, finit par dire Rem, mais je ne suis pas convaincue. Pour moi, l'Olympe est d'abord une immersion dans l'irrationnel, un retour à la mentalité primitive. Notre liberté est le tribut que nous payons à notre peuple pour avoir le droit d'exercer le pouvoir. L'anthropologie est riche d'exemples de chefs obligés de sacrifier quelque chose. Lioa hocha la tête. Ces deux explications ne sont pas exclusives, dit-elle sur un ton plus posé. Je considère que l'ensemble de nos structures sociales sont extrêmement primitives. Enfin, ajouta-t-elle avec un sourire d'ironie à l'adresse de Nebelwyr, je parle pour les pays dont la structure sociale n'est pas complètement opaque. Nebelwyr sourit à son tour. « Je vous avais comprise, dit-il. » Tout en continuant à sourire, elle songea avec un léger effroi que ses interlocuteurs étaient beaucoup plus intelligents qu'elle ne l'avait préjugé et se jura de tenir compte à l'avenir de ce que cet exercice social lui avait finalement appris. Contrairement aux autres puissances majeures qui avaient fait le choix d'une industrie extensive et d'une urbanisation systématique, le Septentrion avait gardé une assez vaste région rurale, très dépeuplée, où verdoyaient encore quelques épaisses forêts et dont le réseau de communication datait de presque un siècle. C'est dans ce paysage suranné qui lui évoquait la saveur légèrement effrayante des existences d'autrefois que Dansk progressait par ce matin orageux, à certains moments si sombres que l'on pouvait croire l'aube encore à venir. Il avait eu un certain mal à localiser le complexe, sur les cartes où il ne figurait pas, et assumait à présent le malaise profond, natif, que lui inspirait d'être seul dans la nature. Cette immobilité bruissante, ce vaste espace où la matière et le vide s'en mêlaient, l'ampleur démesurée du ciel, où pouvaient survenir de brusques changements de lumière, le ramenait à un état de déréliction fondamentale. Qu'était-il sur cette route, loin de la ville et de ses fonctions, sinon une âme errante sujette à toutes les disparitions possibles? Il se mit bientôt à pleuvoir, et il dut ralentir son rythme. Comme ses propres calculs lui indiquaient la proximité de son but, il redoubla d'attention. Le complexe avait dû être autarcique, étant donné son secret et son isolement, il devait donc être grand. Et en effet, au détour de cette route maussade et sinueuse, il fut soudain face à lui. C'était un ensemble de bâtiments fonctionnels qui avaient manifestement été construits rapidement et sans excès de fioriture. Il n'y avait rien autour, ni enceinte, ni barbelé. Le lieu avait l'air totalement désert. Il arrêta son véhicule à quelques pas du premier bâtiment et réfléchit encore à l'arrêt, à la meilleure façon d'entrer. Il ne pouvait pas voir grand-chose à travers ses vitres aveuglées de pluie et se décida à sortir. La pluie était cinglante, froide, à vous faire regretter les entreprises hasardeuses. Il courut sur les quelques mètres qui le séparaient de la porte et comprit avec un peu d'anxiété que celle-ci était déjà ouverte puisqu'elle battait au vent. À l'intérieur, il faisait presque aussi froid que dehors et le vide était doublé d'abandon. Il y avait quelques mois à peine que le complexe avait dû être déserté. Pourtant, les signes de mort y grouillaient comme sur une charogne. Une vague odeur de métal en pleine oxydation, un air rance, des murs gercés par le froid, des objets laissés pour compte au milieu des couloirs ou sur les marches des escaliers, et surtout, un silence qui semblait aquatique. Dansk arpenta le premier bâtiment sans croiser âme qui vive, ouvrit la porte de dizaines de bureaux où gisait une administration brutalement désertée. Il y avait encore des fournitures, du mobilier, quelques ordinateurs, comme si personne n'avait pris la peine de donner les ordres qui les concernaient. Bartok, sans doute, avait été le seul à se soucier du lieu. Dansk trouva, au bout d'une quinzaine de minutes, l'accès au second bâtiment, qui semblait avoir été destiné au quartier d'habitation du personnel. Comme dans une sorte d'épave, les choses étaient restées figées, et Dansk s'aperçut qu'il en allait exactement de même pour les laboratoires, les salles de machines, les salles de contrôle. Il y avait ici une multitude d'informations offertes à qui désirait perdre le temps de les chercher. Dansk sentait s'accroître sa frustration. Il trouvait plus qu'il n'en avait espéré, et pourtant, il était presque sûr que l'essentiel se dérobait encore, et que s'il avait fouillé tous les recoins de ces immeubles et forcé toutes leurs mines, il n'aurait rien appris de plus que ce qu'il savait déjà. Oui, des quantités de gens avaient travaillé à l'éducation de Lioa, dans le plus grand secret. Oui, il semblait s'être livré à des expériences d'envergure pendant cette période, sans doute, cela avait coûté des milliards, mais il n'y avait pas là-dedans la moindre ébauche d'explication. Il allait repartir lorsque ses yeux furent attirés par une très faible lueur provenant de l'escalier d'un sous-sol. Il se raidit, puis entendit des pas. Un homme assez âgé, armé d'une torche électrique, émergea bientôt à sa vue. « Que faites-vous là, monsieur ?» demanda le vieil homme très calmement. « Je vous cherchais, » fit Dansk avec aplomb. « J'avoue d'ailleurs que je commençais à désespérer de vous trouver. » Le vieil homme sourit. « Vous avez eu de la chance alors que je passe par ici. Vous désirez consulter les archives, je suppose. »«
Exactement, oui. »
L'homme évoquait plus que toute autre chose une sorte de génie des lieux. Sa présence, son âge, son flegme, tout aurait dû être choquant, mais se fondait au contraire dans une parfaite harmonie avec l'escalier fantomatique dont il avait surgi.
« Il pleut donc dehors ?»
Dansk se demanda un instant à quoi il pouvait bien ressembler pour provoquer une telle question. «
Oui, il fait un temps épouvantable. »«
C'est une région épouvantable, » reprit le vieux.
« Vous êtes journaliste ?»«
Pas du tout, je suis militaire. »
Il fouilla rapidement sa veste et tendit sa carte. L'autre la regarda à peine et fit volte-face sans crier gare. Dansk le suivit jusqu'à la seule partie habitée du complexe, un morceau de sous-sol qui luttait contre l'inanité et l'obscurité, dans lequel le vieil homme prenait tout à coup une dimension plus humaine et plus normale.
« Vous êtes seul ici ?» demanda Dansk.
« Oui. » La salle des archives, qui paraissait être à la fois un lieu de travail et un foyer, était assez petite et totalement surchauffée. Dansk reconnut qu'il avait eu froid aux longs frissons qui le parcoururent et adressa un sourire un peu gêné à l'homme qui l'observait avec une très légère pointe d'amusement.
« Bien sûr, bon nombre d'archives sont de nature informatique, mais vous avez ici encore quelques papiers. Quant aux documents audiovisuels, ils m'ont été retirés il y a bien longtemps de cela. »«
Je peux jeter un coup d'œil ?»«
Tout ce que vous voudrez, après tout, vous vous êtes déplacé dans ce but. »
Dansk se prit à oublier assez vite sa présence discrète et se plongea dans sa recherche. Les documents sur papier se révélaient n'être que des actes officiels. Demandes d'autorisation, décharges de responsabilité, registres d'appels, rapports de visite médicale. Cela ne présentait aucun intérêt. Quant aux archives informatiques, elles apparaissaient sous la forme d'une gigantesque liste de titres de fichiers. Elles étaient si nombreuses et couvraient des sujets si disparates qu'il était difficile de se faire une idée de leur contenu. On trouvait juxtaposé un rapport de la commission d'architecture, un ordre de mission de l'ambassade, une liste du personnel, une analyse génétique de l'IOA, un inventaire des possessions du service de restauration et quelques dizaines de milliers d'autres choses.
« Ces archives sont-elles classées ?» demanda Dansk.
« Bien sûr, elles sont classées, mais pas pour n'importe qui. »
Dansk leva les yeux vers l'homme et dit très simplement «
Je suis fatiguée, vous savez. »
Je n'en doute pas, vous avez sûrement fait une longue route. Que cherchez-vous exactement ?
Des informations sur l'ambassadrice.
Le vieil homme éclata de rire.
C'est très vague. De quel type d'informations parlez-vous ? On a mesuré chez elle tout ce qui pouvait être mesuré chez un être humain. Il existe sur elle des bases de données physiques, chimiques, biologiques, neurologiques, psychanalytiques, pédagogiques, politiques, génétiques, réactionnelles. Et la liste est fort longue.
« Je ne sais pas, » dit Dansk. « Je voudrais juste savoir pourquoi on l'a amenée ici, quel type d'éducation elle a reçu. Je n'ai absolument pas le temps d'étudier 20 ans d'archives. »
Le vieil homme fit une rapide manipulation et imprima quelques lignes sur un papier.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Dansk.
« Une adresse. Je pense que vous feriez mieux d'aller voir directement ce monsieur. »
Dansk prit le papier. « Le docteur Marejan. Pensez-vous qu'il acceptera de me recevoir ?»
« Votre accréditation est très persuasive, mon général. Il pourra vous renseigner beaucoup mieux que moi. »
Dansk l'observa un moment, comme s'il hésitait à le laisser tout seul dans son enclave absurde, puis il retraversa les bâtiments et rejoignit son véhicule. Le papier dans sa main lui confirmait ce qui venait de se passer. Pourtant, il ne pouvait chasser l'impression d'avoir momentanément traversé les frontières de la réalité et d'avoir glané ce renseignement à la faveur d'un rituel interdit. La tempête de pluie s'était calmée, et la nature qu'il retraversa, indifférente à son voyage, lui parut plus sereine.
L'IOA avait toujours eu l'impression d'une coïncidence parfaite entre l'instant de son réveil et celui où la migraine, violemment, prenait possession de son corps. Ce n'était pas seulement le martèlement terrible de sa tête qui aurait seul suffi à la couper du réel
Il y avait aussi cette nausée, plus insupportable encore, qui la maintenait immobile, au bord du malaise et du vomissement, pendant de longues minutes. Elle pouvait sentir l'altération progressive de son visage, le creusement des cernes, la crispation irrépressible de traits, le gonflement des yeux qu'elle imaginait dévorer de l'intérieur, comme si elle n'était plus qu'une conscience mourante dans un corps en décomposition. Puis le mal de tête se dissipait, et la nausée persistait, houleuse, pendant quelques minutes encore. Enfin, elle retrouvait la force de se mouvoir, et lorsqu'elle se levait, seul son visage, marqué comme par une longue insomnie, portait le témoignage de ce spasme. Elle ne se souvenait jamais de ses rêves. Elle se préparait ce matin à rencontrer Liolthid, un événement qui l'intéressait profondément et l'amusait en même temps. L'Océanie en elle-même n'avait pas de quoi faire sourire, mais le commandeur lui semblait à certains moments si enfantin et lui laissait si aisément voir dans son jeu qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver à son endroit une extrême curiosité. Il était tellement effarant qu'un homme assez imprudent pour la convier dans son repère pût avoir été choisi pour exercer pareille fonction. Elle considérait tous dans leur particularité, elle éprouvait le sentiment d'être comme une adulte isolée parmi un groupe d'enfants gâtés qui, se prenant à un jeu trop sérieux pour eux, finissait par donner de tels signes de faiblesse que la partie entière s'en trouvait menacée. Liolthid parlait avec précipitation, son regard incontrôlé passait sans cesse d'une expression à l'autre. Même son silence, auquel il voulait tant donner l'illusion de la profondeur et du calme, semblait un carcan qu'il s'imposait maladroitement pour colmater sa volonté à jurer. Mener un entretien avec lui serait probablement d'une facilité déconcertante. Il était si évident qu'il cherchait le soutien du Septentrion et qu'il redoutait de ne pas l'obtenir, et il allait être si déçu que sa flotte ait été découverte. Lioa souriait en ajustant sa robe, qui la faisait paraître encore plus maigre, et considéra son reflet dans le miroir avec le même regard critique qu'elle avait pour les autres. Son allure était certainement bizarre, mais elle était digne. Il n'y avait pas de faute de goût dans cette moire lourde, dans ces drapés antiques et épurés. La spirale légèrement brillante s'imposait comme une nécessité sur son ventre, comme un stigmate austère. Seul son visage déparait du costume, lisse, blanc, heurtant la vue par sa jeunesse inexpiable. À force de se regarder pourtant, elle parvint presque à lui donner l'apparence de la cire, et dans un figement des traits qui la réduisit soudain à une sorte d'allégorie, et dans un sentiment de toute puissance, elle s'apprêta à sortir. La disparition de Bartok avait fait sur Liolthid un effet particulier. Pour lui, il en était allé de cet assassinat comme de ces événements imprévisibles et bouleversants qui ouvrent à grand fracas des portes depuis longtemps closes. L'alliance avec Bartok avait échoué, et tout à coup, une alliance avec le Septentrion, même à long terme, même conditionnée par des circonstances qu'il ne maîtrisait pas, redevenait possible, et cela suffisait à modifier profondément le champ de l'avenir. Liolthid avait par conséquent porté à Lioa, dès l'instant de son arrivée, la plus vive attention, et, sans trahir la longue attente qu'il s'était imposée à lui-même comme une ascèse, avait amorcé l'étude de sa psychologie et de sa politique, concentrant sur elle tous les faisceaux de ses projections, comme une araignée immobile. Il avait apprécié la façon dont elle était apparue, et admiré les moyens qu'elle avait mis en œuvre pour réduire les conséquences du traité de paix. Il avait éprouvé aussi une obscure compassion pour sa jeunesse sacrifiée à une semblable cause. L'Océanie, depuis plusieurs années, dans le secret abyssal de son territoire disloqué, s'armait pour une guerre finale. Et bien que Liolthid se laissa parfois aller à penser que son ambition était vaine, il attendait que le moment vînt pour les faibles d'anéantir les forts. C'était peut-être l'absurdité de cette entreprise qui en faisait tout le prix, car il savait qu'elle ne serait jamais envisagée avant d'être manifeste, et que dans ce monde, la surprise seule pouvait avoir gardé toute son efficacité. Ainsi, dans la lente gestation de sa révolution, où l'idéal et la fantaisie se déployaient à l'intérieur d'un calcul pragmatique, et sans cesser de songer à l'aide incommensurable que Lioa pouvait lui apporter, il respecta, à son égard, les règles de la courtoisie la plus distante. Lorsqu'elle lui réclama une entrevue privée, pris au piège de l'observateur acculé à l'action, il hésita longtemps, partagé entre une euphorie qu'il savait insensée et la méfiance que tout, dans un tel procédé, pouvait lui inspirer. Il accepta cependant,
et l'invita même dans son propre refuge, maladresse qu'il se reprocha sans merci pendant tout le temps qu'il dut l'attendre. Sans doute eût-il été moins nerveux s'il avait dû la rencontrer dans une partie neutre, parce que la situation ne lui aurait pas fait ressouvenir d'un temps où il avait coutume de recevoir des femmes chez lui, et que le trouble qu'il ressentait maintenant, et qu'il devait bien reconnaître pour une ombre de désir, ne serait peut-être pas venu interférer dans un entretien politique d'une telle importance. Lioa fut à l'heure, et il la reçut dans un mélange d'émotions confuses. Elle paraissait, comme à l'accoutumée, parfaitement maîtresse d'elle-même, et sa froideur le rasséréna quelque peu. Elle regarda assez longuement la décoration de la petite pièce dans laquelle il se trouvait, et attarda son regard sur une grande carte de l'Océanie, accrochée au centre de l'un des murs, et qui lui fit penser à une fenêtre céleste donnant sur un monde minuscule. « C'est une très belle carte, » dit-elle. « Elle date du siècle dernier. » Il y eut ensuite un silence assez long, oppressant. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il. Elle s'exécuta et le fixa quelques instants avant de commencer. « Je dois avouer, commandeur, que j'ai été surprise par votre invitation. » Lioltit sourit et se sentit à nouveau en terre ferme, dans la normalité d'une entrevue diplomatique. « J'ai peut-être commis une imprudence, mais vous ne sembliez pas avoir d'intention agressive. » Lioa sourit à demi. « Je m'étonne que vous puissiez encore faire confiance à de telles impressions après tant d'années passées ici. » Lioltit haussa les épaules. « Je vous avouerai à mon tour que je ne devine pas la raison de votre requête et que cela me préoccupe davantage. » Lioa hocha la tête et le dévisagea pensivement. « Savez-vous pourquoi l'Occident a besoin de bases dans mes ports ?»« L'Occident est privé d'accès à la mer depuis près de 80 ans. » « Précisément. Rem et son prédécesseur avant lui auraient eu 20 fois l'occasion d'en retrouver un. » Lioltit ne répondit pas et commença à redouter l'évolution de la conversation. « Tout porte à croire, poursuivit Lioa, que l'Océanie n'est pas étrangère à cette décision. » Je vois que vous avez sur la question une hypothèse beaucoup plus précise que vous ne le laissiez supposer. Détrompez-vous, je parle d'un climat général. Votre puissance est en ascension. Lioltit eut un sourire poli. Disons qu'elle a acquis une relative autonomie. Relative, en effet, vous êtes très lié économiquement à l'Austrie et au Méridien. À vrai dire, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Disons que votre flotte sous-marine a frôlé d'un peu trop près les radars septentrionaux. Ah, fit Lioltit, nous y voilà. Je suppose que vous préféreriez que les enregistrements radars de votre navire amiral demeurent plus ou moins secrets. Qu'entendez-vous par plus ou moins? Je faisais allusion à l'archipel, à qui vous n'ignorez pas qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit. L'archipel, oui, bien sûr. Je n'aurais pas la faiblesse de croire que votre silence sera gratuit. Que voulez-vous en échange ? Lioa sourit, et ce sourire inattendu, gracieux, désarma un peu la colère de Lioltit. Je veux m'assurer que mon pays ne sera pas la première cible de votre artillerie invisible. Le Septentrion a beaucoup de côtes. Il y eut un relâchement soudain dans la poitrine contractée de Lioltit, et ce fut à son tour de sourire. Je vous l'assure, mais une parole donnée ici ne vaut pas grand-chose. Je ne vous ai pas donné plus que la parole de mon silence, cela me semble équivalent. Iriez-vous jusqu'à me dire pourquoi vous dédaigneriez de vous attaquer à une proie si intéressante ? Non, dit Lioltit au bout d'un moment, mais nous en reparlerons le moment venu. Lioa acquiesça. J'ai mon idée sur la question. Lioltit se leva et elle l'imita. C'est étrange, dit-il en la raccompagnant, vous ne ressemblez pas du tout à Bartok. Elle se tendit. « Pourquoi dites-vous cela ?»« Il avait une conscience plus aristocratique de la hiérarchie des puissances. »« Voulez-vous dire que son silence vous aurait coûté plus cher ?»« Pas seulement. » Lioa ne répondit pas. Sa dernière remarque au sujet de Bartok l'avait contrariée et prise de court. Elle ne supportait pas qu'on parlât de lui devant elle, car elle avait l'impression de subir le choix d'une arme qu'elle ne maîtrisait pas. Lioltit, dans sa maladresse même et sans volonté de lui nuire, l'avait mise devant une faille qu'elle détestait considérer. Après un bref salut dont toute chaleur était soudainement partie, elle laissa seule son interlocuteur.